chef de file des soins infirmiers, assurant la sauvegarde des hautes normes de qualité, cherchant à promouvoir l'enseignement, la recherche, l'encadrement, le soutien et le développement des compétences et de l'excellence clinique. Nous sommes la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu. Bienvenue à Savoir et Stéthoscope.
Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce tout premier épisode de 2026 du balado de la direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope. Alors aujourd'hui, vous êtes avec Julie Blanchette, donc je suis seule car j'ai décidé, dans le fond, de vous présenter une entrevue que j'ai pu réaliser avec Mme Joëlle Bernard-Hamel, qui est IPS, donc infirmière praticienne spécialisée, auprès d'une clientèle dont il va être question aujourd'hui, c'est-à-dire la clientèle de pédopsychiatrie. Donc, c'est un sujet qui tombe à point avec l'ouverture du nouveau pavillon Enfant-Soleil Urgence et la toute nouvelle clinique destinée à cette clientèle-là. Donc, Mme Bernard-Hamel a accepté de nous accorder une entrevue sur ce sujet.
Nouveauté, développement, accomplissement. Quoi de neuf à la DSI?
Saviez-vous que les bactériémies associées aux cathéters vasculaires centraux sont parmi les types de bactériémies les plus fréquentes? En effet, elle représente un peu plus de 20 % des bactériémies nosocomiales au Québec en 2024, selon l'Institut national de santé publique du Québec. Chaque infection prolongée, chaque complication, chaque coût complémentaire pour le réseau est souvent évitable. Et c'est pourquoi le CIUS de l'Estrichu lance en février 2026 la campagne pour éloigner l'infection. Chaque frottement compte. C'est pas juste un slogan. C'est un rappel que la sécurité de nos patients repose sur la rigueur de nos pratiques cliniques. La prévention des bactériémies, c'est une responsabilité partagée qui exige de chacun de nous une conformité absolue à l'ensemble des pratiques exemplaires en accès vasculaire. Pour que vos gestes soient optimaux, trois piliers doivent guider vos pratiques. Donc, s'informer des lignes directrices et des bonnes pratiques cliniques en accès vasculaire, appliquer des techniques de soins conformément aux pratiques exemplaires et aux méthodes de soins et promouvoir les bonnes pratiques auprès de nos collègues par un leadership mobilisateur. Pour faire une réelle différence sur l'incidence des bactériémies, nous devons nous concentrer sur les moments clés et la précision technique, notamment l'hygiène des mains, qui doit être réalisée systématiquement selon les quatre indications recommandées et particulièrement avant toute intervention aseptique et après un risque de contact avec des liquides organiques. L'asepsie cutanée, notamment lors de l'insertion ou des soins de cathéter intraveineux, la solution de choix étant le gluconate de chlorhexidine 2 % combiné à l'alcool 70 %. Le secret de son efficacité? La friction, bien sûr, mais surtout le temps de séchage. Attendez minimalement 30 secondes que la solution soit entièrement sèche sur la peau avant de procéder. Et la désinfection des connecteurs sans aiguille. C'est ainsi que chaque seconde compte. Vous devez désinfecter vigoureusement par friction le port d'accès pendant au moins 15 secondes avant et après chaque utilisation. Donc, de février à avril 2026, vous verrez arriver dans vos différentes unités des affiches rappelant ces principes essentiels. Elles sont là pour nous soutenir dans l'amélioration de nos pratiques. En respectant ces pratiques de désinfection et ces temps de séchage, nous ne faisons pas que suivre un protocole. Nous protégeons des vies et renforçons la sécurité des soins. Rappelez-vous, contre les bactériémies, chaque frottement compte. Donc, saviez-vous qu'environ un enfant sur 8 dans les pays à revenus élevés, dont le Canada, là, vivent avec au moins un trouble de santé mentale? Mais c'est pourtant un peu moins là, de la moitié d'entre eux qui vont recevoir des services spécialisés dont ils auraient besoin. Dernièrement, on a eu Dr. Mélissa Généreux, qui est médecin spécialiste de la santé publique, qui démontrait par les résultats de ses études publiées en décembre 2025 que la santé mentale des jeunes, donc des 18 à 29 ans, s'était grandement détériorée depuis 2021. En effet, c'est environ donc 10 % qui sont plus nombreux à afficher des symptômes anxieux ou dépressifs. Alors, dans un contexte où tant de jeunes vivent avec ces défis-là, comment la pédopsychiatrie, et plus spécifiquement aujourd'hui, on va parler du rôle unique de l'IPS spécialisé dans ce domaine-là, peut faire une réelle différence? Donc aujourd'hui, on explore justement le terrain passionnant avec notre experte en pédopsychiatrie pour mieux comprendre ce que vivent ces jeunes et comment on peut mieux les accompagner. Donc de base, j'ai demandé à Joëlle quels étaient les principaux motifs de consultation en pédopsychiatrie. Et je me demandais si toutes les préoccupations qui concernent la santé mentale véhiculées par ces jeunes-là, c'était nécessairement d'ordre pathologique. Donc, écoutons ce qu'elle nous a répondu.
Dans mon rôle là, comme IPS santé mentale en pédopsychiatrie, je me retrouve à rencontrer des adolescents qui, des fois, font la demande eux-mêmes là, d'avoir de l'aide en santé mentale. Puis, mon rôle à moi, c'est de départager qu'est-ce qui fait partie de l'évolution, je vais dire, attendue d'une santé mentale à l'adolescence. Puis de le différencier avec ce qui est de l'ordre du pathologique puis qui nécessite possiblement un traitement pharmacologique et ou des traitements non pharmacologiques. Fait qu'on entend par là de la psychothérapie, de la psychoéducation. Puis parmi les manifestations ou les raisons de consultation à l'adolescence, ben c'est sensiblement les mêmes qu'à l'âge adulte, mais je vais dire avec peut-être des choses c'est qui reviennent plus souvent à l'adolescence, entre autres les notions d'anxiété sociale, hein, d'inquiétude par rapport au jugement que les autres me portent comme ado, l'espèce de pression sociale là, tu sais, à évoluer dans un petit milieu qui est l'école, puis à faire face à des fois des rumeurs, des oui-dire, des réputations qui sont vite déformées, puis là ça amène une augmentation de l'anxiété chez les ados. Ça fait partie des préoccupations récurrentes quand même, tout le volet plus comment je me développe dans une micro-société qui est l'école, puis comment je développe mon identité, mon estime personnelle. Fait que ça, c'est souvent des choses qu'on travaille en entrevue puis en suivi avec les ados, sans nécessairement que ce soit une pathologie, parce que, tu sais, après, c'est ça, les adolescents qui répondent grosso modo aux critères de l'anxiété sociale, ils sont nombreux. Ça veut pas dire pour autant qu'on doit leur attribuer le diagnostic. Par définition, c'est anxiogène d'être adolescent, de se développer. Puis c'est vrai qu'entre eux, ils ont un jugement qui est des fois sévère, hein, qui est comme peu nuancé. Puis cette notion-là, tu sais, d'avoir peu de nuances dans le jugement, d'être clivé noir ou blanc, là, tu sais, de dire cette personne-là est extraordinaire, puis le lendemain matin, ça peut être la pire collègue de classe du monde. Ben ça m'amène à parler aussi un peu de l'autre défi pour les adolescents de réguler les émotions, hein, parce que par définition, ben leur lobe préfrontal est pas complètement formé, puis la notion de maturité émotionnelle, ben ça fait des fois l'adolescence, mais c'est ça fait partie du développement normal, tu sais, ils vont au cours des 5 années du secondaire et plus, et par après, développer une maturité émotionnelle qui va leur permettre de nuancer la façon dont ils vivent, dont ils perçoivent les événements. Puis il y a des jeunes pour qui la régulation des émotions est plus difficile, hein. C'est des jeunes qui vivent intensément les choses de base. Des fois, on se rend compte que quand on fait l'histoire développementale, là, c'est des enfants qui, dès le jeune âge, avaient des réactions très intenses, percevaient aussi beaucoup de choses. Les parents les décrivent comme des enfants qui étaient très sensibles, qui étaient perméable à leur environnement, puis qui captaient beaucoup, beaucoup de choses, mais qui n'ont pas forcément développé des outils pour être en mesure de réguler ces émotions-là. Fait que, tu sais, on entend par régulation des émotions la capacité à reconnaître l'émotion, déjà, de base, d'être capable de l'identifier, de dire qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis ça a-tu un nom, comment ça s'appelle? Parce que, tu sais, les émotions de surface, la colère, la joie, la tristesse, mais en dessous, il y a souvent beaucoup de choses, puis ce dessous-là de l'émotion de surface qu'il faut creuser pour identifier plus précisément, c'est-tu de la honte, c'est-tu du rejet, c'est-tu un sentiment d'abandon que j'ai? Puis après ça, ben d'être capable de lui laisser de la place à cette émotion-là, de lui laisser la place qu'elle a parce qu'elle veut dire quelque chose, hein, de se sentir rejetée dans une situation sociale, c'est pas mal en soi, c'est désagréable, mais c'est pas une mauvaise chose. Puis il y a aussi la partie faut être capable de tolérer la détresse que ça nous fait vivre, hein, d'être capable de, un peu comme une partie d'acceptation puis une partie de tolérance, de dire ben en ce moment je me sens rejetée, c'est désagréable, je vis un mauvais moment, je me sens pas bien, ça me donne mal au ventre, j'ai même mal au cœur, puis c'est ça qui fait que quand je pense à retourner à l'école, j'ai tendance à anticiper les choses parce que j'ai vécu une émotion désagréable hier, puis j'ai pas envie de la revivre, tu sais, fait que ça il y a comme une partie où il faut être capable de mentaliser suffisamment pour faire des liens avec « j'ai une sensation corporelle, ça vient d'où, comment ça s'appelle? »
On voit que Joël aborde beaucoup le sujet de la régulation des émotions, comme quoi ces dernières-là, ou plutôt la façon de les gérer, va avoir une incidence sur la façon dont les jeunes vont percevoir leur santé mentale. Et selon Joël, l'importance, c'est justement de comprendre comment les aider à nuancer ces émotions-là, finalement. Donc, écoutons-la.
Puis la partie aussi, des fois, qui est à travailler beaucoup, beaucoup avec les ados qu'on voit en consultation, c'est qu'est-ce que je fais pour l'apaiser, cette émotion-là? Parce qu'elle a raison d'être là, elle a le droit de vivre puis d'exister, mais comment je peux faire en sorte de l'apaiser pour qu'elle ne m'envahisse pas puis que ça ne m'amène pas à avoir des comportements dommageables? Quand on entend par là, tu sais, tous les comportements d'automutilation, les idées suicidaires, ou des fois, vraiment, juste le conflit qui devient très intense entre deux ados, puis qui peut amener les relations un peu up and down en amitié. Là. Fait que, tu sais, ces réactions-là extrêmes, ça vient d'un cerveau qui, des fois, manque de nuances. T'sais, cette capacité-là à dire, ben la personne n'est pas que mauvaise. Elle a peut-être fait un mauvais choix hier en me disant telle affaire, mais ça fait pas d'elle la pire collègue de classe sur Terre. Ben comment je fais pour nuancer? Faut avoir un bon recul. Puis c'est notre rôle à nous, je pense, comme adultes, à les aider à prendre cette distance-là. Puis ça nécessite pas forcément de la médication. C'est ça la bonne nouvelle.
J'écoutais Joël, puis je me revoyais là, à l'époque là, de 13, 14, 15, 16 ans, là, où je me levais le matin, puis à cause de ce que j'avais vécu la veille à l'école, je me disais que je voulais plus jamais retourner à l'école. Ça m'arrivait même de lancer des propos parfois d'allure suicidaire, qui n'étaient pas nécessairement fondés. Mais cette réflexion-là, ça m'a amenée à lui demander pourquoi que dans notre temps, là, entre guillemets, on ne demandait pas nécessairement à consulter, alors qu'aujourd'hui, dans les années 2020, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus souvent de la santé mentale chez les jeunes, puis nos ados osent de plus en plus demander de l'aide. Donc, écoutons ce qu'elle avait à me dire.
Il y a comme une médiatisation hein, de la santé mentale qui a plein de beaux côtés, au fond, là, tu sais, ça a comme les qualités de ses défauts, dans le sens que c'est vrai qu'on en entend plus parler, on est peut-être plus actif, c'est dans la recherche d'intervention, d'aide, de diagnostic. Même des fois, il y a des parents qui arrivent en consultation puis ils ont l'attente qu'on établisse le diagnostic, puis des fois même ils ont le diagnostic en tête puis ils attendent que nous légalement on le pose là, tu sais. Fait le bon côté de ça, je pense que c'est que les jeunes on espère, en tout cas, qu'ils restent moins seuls avec cette détresse-là. Puis, ultimement, tu sais, la complication qu'on redoute quand on travaille en psychiatrie santé mentale, c'est toute la partie des gestes suicidaires ou hétéro-agressifs. Là. Fait que, tu sais, c'est ça, nous, la complication ultime dans notre domaine de la santé. Fait qu'on se dit, au final, les interventions qu'on fait en amont, c'est dans le but ultimement de prévenir ces gestes-là irréparables, tu sais. Mais entre les deux, il y a plein de détresse, de mal-être qu'on veut limiter, puis c'est pour ça qu'on essaie d'intervenir plus tôt que tard auprès de ces jeunes-là. Fait que je pense que ça a du bon.
Donc, assurément que l'exemple de Joël en lien avec les images ou les récits là, concernant la santé mentale véhiculés notamment via TikTok là, ou les autres réseaux sociaux, ben ça m'a amené à la questionner sur ce sujet-là. Dernièrement, Dr. Mélissa Généreux faisait état justement de la hausse marquée du sentiment de solitude qui a passé d'environ de 4 jeunes sur 10 à 6 jeunes sur 10, et ça juste pour les jeunes de l'Estrie puis de la Montérégie. Elle croit notamment que cet accroissement-là du sentiment de solitude serait justement associé à l'art numérique, où malgré le fait qu'on a des contacts sociaux virtuels quasi constants, là, ça remplacera jamais les discussions vraies et profondes qu'on peut avoir en face à face. Donc, j'ai aussi questionné Joël à savoir, selon elle, quel peut être l'impact de l'utilisation des réseaux sociaux, finalement, sur la santé mentale de nos jeunes. Et elle nous parle notamment du risque qu'ils vont avoir là, d'exposer une certaine vulnérabilité. Alors, écoutons-la.
Je pense que tu sais il y a deux revers à cette médaille-là, probablement que ça augmente, ben ça normalise, hein, je pense les moments où on peut avoir une santé mentale qui est plus fragile puis qui nécessite plus de soutien. Fait que ça c'est comme beaucoup plus, je pense, accepté auprès des jeunes que ça l'était auprès de notre génération. Tu sais quand ils arrivent puis ils nomment une détresse, et ça peut arriver que je les sente encore mal à l'aise de le faire, mais j'ai l'impression qu'en majorité quand ils sont rendus dans le bureau puis qu'ils veulent de l'aide, ils sont assez assumés là dans leur détresse, dans leurs besoins. Fait que ça, je pense que ça peut découler en partie du fait qu'on en parle davantage, que c'est quelque chose qui est le fait de voir beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux, ça démocratise un peu ça normalise la santé mentale qui peut être plus fragile, les besoins en santé mentale. Mais d'un autre côté, je pense que cet accès-là est incessant, là, tu sais, 24 heures sur 24 aux réseaux sociaux puis aux communications par texto, par groupe Snapchat, tout ça, ça augmente l'espèce de pression sociale dont on parlait tantôt, tu sais, de dire il faut toujours que je sois disponible, prêt à répondre, à participer, que je sois engagée dans les interactions sociales, peu importe l'heure du jour, de la nuit, mon état mental à moi comme ado, tu sais, en soirée, on peut être plus fatigué, on peut être plus à fleur de peau, on peut avoir plus de difficultés à réguler nos émotions, puis dans ce contexte-là où on aurait peut-être besoin d'être dans notre cocon familial, puis d'être chez soi, dans un espace sécuritaire, ben on est encore exposé à l'extérieur via les réseaux sociaux puis les communications par téléphone ou par internet finalement. Fait que je pense que ça rend l'information plus accessible pour les ados, mais ça les expose davantage dans toute leur vulnérabilité d'adolescent à être davantage jugés puis à laisser des traces plus indélébiles, tu sais, parce que le classique, c'est de dire, ben nous, on en a fait des niaiseries adolescentes, puis il était pas filmé. Ces moments-là, il était pas filmé, il restait gravé dans la mémoire de ceux qui étaient là, mais il passait pas, tu sais. Ces moments-là, il était pas conservé à long terme, puis il était pas distribué à plein d'autres mondes autour à l'école qui allaient pouvoir revoir ce vidéo-là de où je me mets en situation de vulnérabilité, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de, il y avait un effet protecteur, tu sais, à être moins exposé constamment. Puis des ados qui vivent l'intimidation, ils en parlent aussi, ils disent à quel point le fait d'avoir accès à ces réseaux-là, ça augmente le temps où ils sont exposés à des intimidateurs, où ils vivent des jugements négatifs, de la pression, tout ça. Fait que je pense que ce côté-là pervers, c'est que ça les expose davantage. Puis pour certains ados, je pense entre autres à des patients qui composent avec un trouble alimentaire, là, tu sais, qui vivent cette pression-là, un envahissement de la pensée en lien avec l'image corporelle, puis les restrictions alimentaires, ben eux, ils sont exposés à beaucoup plus de contenu via les réseaux sociaux. Fait que ça, c'est, ils peuvent, tu sais, s'imposer un régime de vie très strict, puis utiliser finalement les réseaux sociaux pour alimenter ces pensées-là, puis cette obsession-là en lien avec l'image corporelle, le décompte des calories, puis être beaucoup dans la comparaison, tu sais, via des comptes Instagram qui, on sait, représentent pas la réalité dans toutes ses nuances, mais on a accès à une partie de la réalité, puis c'est plus difficile pour un ado de nuancer ça, d'avoir un regard critique par rapport aux réseaux sociaux, là.
Donc, comme je vous disais en début d'émission, Joël est IPS en pédopsychiatrie. Donc, bien sûr, je lui ai demandé de nous parler de son rôle à ce juste titre. Alors, écoutons ce qu'elle avait à nous dire.
Je travaille beaucoup en collaboration avec le mécanisme d'accès en santé mentale jeunesse, fait que le MASMJ. C'est un acronyme pas facile à prononcer, mais c'est le mécanisme d'accès santé mentale jeunesse qui se trouve à être la porte d'entrée pour les services en santé mentale, pour les enfants, les adolescents. Puis la personne, dans le fond, peut se présenter à l'accueil psychosocial pour faire une demande d'aide en santé mentale, mais la demande peut aussi nous parvenir du médecin de famille ou d'un médecin qui a été consulté à l'urgence. Fait qu'il n'y a pas nécessairement, pour qu'on voit un jeune en consultation IPS, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait un requis, une référence médicale. Le patient peut s'auto-référencer via l'accueil psychosocial. Puis nous, on agit comme consultant. Fait qu'on évalue est-ce qu'il y a présence d'un trouble mental, oui ou non. Puis qu'est-ce qui est le meilleur traitement, le traitement indiqué pour cette situation-là. Fait qu'est-ce que c'est un traitement médicamenteux. Des fois, il faut ajuster un traitement qui est déjà en place. Des fois, il faut carrément changer de molécule. Des fois, c'est pas requis dans un premier temps. Si, par exemple, on est en présence d'un jeune en trouble d'adaptation avec une humeur anxio-dépressive, ben il y a de la souffrance, il y a un besoin de soutien, mais les meilleures pratiques nous disent, ben dans un premier temps, on traite pas avec de la médication, on va essayer d'offrir un soutien plus psychologique ou psychoéducatif aux jeunes, puis dans notre rôle de prescripteur, ben on va aussi orienter le traitement non pharmacologique. Fait qu'on peut dire, ben actuellement, avec la photo que j'ai aujourd'hui, il n'y a pas de traitement pharmacologique qui est indiqué avec une urgence. Par contre, il faut que le jeune soit soutenu avec du travail social, de la psychoéducation. Fait qu'en étant, en collaborant avec le mécanisme d'accès en santé mentale jeunesse, on peut faire cette référence-là vers les services psychosociaux qui sont au CLSC ou en deuxième ligne aussi là, en clinique externe de pédopsychiatrie. Fait qu'on pourrait aussi référer vers la deuxième ligne s'il y a eu des tentatives de services au niveau du CLSC de la première ligne qui n'ont pas fonctionné. Il y a eu plusieurs épisodes de tentés puis on demeure avec des symptômes qui sont incapacitants puis qu'il y a une souffrance qui est cliniquement significative à ce moment-là. Ça pourrait justifier de référer en deuxième ligne. Fait qu'on a comme une position qui chevauche la première, la deuxième ligne en termes de service. Puis il y a aussi la notion, si le patient n'a pas de médecin de famille, ben là, des fois, on va le suivre un peu plus longtemps si on initie une médication. S'il y a un médecin de famille, des fois, on va se retirer plus rapidement du dossier, puis on va plus être en soutien au médecin pour l'ajustement de la pharmacothérapie.
Donc, vous avez tous compris que lorsque Joëlle nous parle des services de première ligne, là, elle fait référence aux services de proximité, comme les CLSC, les GMF ou même les services d'urgence, par exemple. Alors que la deuxième ligne, ça correspond davantage aux services plus spécialisés. On lui a d'ailleurs demandé si elle avait des conseils à donner à une infirmière ou un infirmier en service de proximité qui n'a pas nécessairement toujours toutes les compétences et les connaissances pour accueillir cette clientèle-là. Par exemple, si le jeune présente des idéations suicidaires, là. Alors quels seraient ses conseils?
C'est vrai que c'est un bon défi, hein, parce que c'est comme un équilibre délicat entre on veut faire les bons gestes parce qu'on veut... Il y a la complication qu'on redoute, t'sais, qui est l'urgence suicidaire ou l'urgence homicidaire qu'on veut absolument éviter. Puis c'est correct de s'en inquiéter. T'sais, quand le jeune verbalise des propos suicidaires, il faut réagir, il faut être à l'affût de ça. Fait qu'une évaluation du risque suicidaire, je pense que c'est quelque chose qui est requis là, de par notre fonction infirmière, peu importe le domaine où on travaille. C'est sûr que quand ça arrive à brûle pour point, on s'y attendait pas. La raison de consultation était complètement autre. Puis on en arrive à évaluer le risque suicidaire. Forcément, ça déstabilise un horaire de travail. Mais rendu là, c'est ça le requis de soins à ce moment-là, fait que c'est correct. C'est attendu qu'on le fasse, peu importe notre domaine de pratique, notre département. Après ça, ben, je pense que c'est d'avoir le réflexe de dire vers où on réfère. Puis l'urgence, c'est jamais un mauvais réflexe ultimement. Il vaudra toujours mieux envoyer un jeune à l'urgence que de le renvoyer à la maison puis de pas dormir le soir en se disant qu'il va peut-être poser un geste suicidaire. Fait, on n'en voudra jamais à une infirmière qui travaille en santé physique, en santé scolaire, de référer vers quelque chose qui, au final, peut-être était plus gros que le besoin, dans le sens que, tu sais, envoyer un jeune à l'urgence, des fois, on se rend compte que, bon, c'est un jeune qui est chroniquement suicidaire, qui a pas d'intention de passage à l'acte, puis il s'est ramassé à l'urgence. Ben, c'était peut-être, tu sais, dans le sens que une grosse réponse, une intervention peut-être plus grosse que le besoin en arrière, mais honnêtement, jamais on en veut à quelqu'un, tu sais, d'avoir fait quelque chose pour protéger le patient. Après, tu sais, c'est ça, c'est notre rôle à nous en santé mentale de reprendre la chose puis de dire, ben, c'est le besoin derrière, qu'est-ce qui est réellement, puis c'est quoi la bonne intervention, c'est de dire on réagit avec la bonne intensité selon l'intensité du besoin. Mais moi, je pense que c'est ça. Fait que la base qu'on s'attend de nos collègues, tu sais, dans d'autres départements, évaluer le risque suicidaire, ça, c'est certain. Le risque homicidaire aussi, il faut pas l'exclure, tu sais. Puis une simple question, là, est-ce que t'as envie de t'en prendre à quelqu'un, de faire du mal à quelqu'un, de poser un geste contre quelqu'un, tu sais, peu importe la formulation, l'important, c'est que ce soit clair, que ce soit sans équivoque, hein. Les fameuses idées noires, tu sais, des fois, on entend encore beaucoup ça. Ça porte trop à confusion, tu sais. En santé mentale, psychiatrie, là, on prône le plus possible la formulation claire, adéquate. Est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que tu as des idées suicidaires? Est-ce que tu as envie de te faire du mal, de mourir, de te tuer? T'sais, rendu là, c'est à nous comme infirmières, je pense, à être à l'aise avec cette formulation, la formulation qu'on utilisera, mais que ce soit sans équivoque. Parce que des idées noires, ça porte à confusion. T'sais, quelqu'un peut des fois penser au suicide, mais sans intention de le faire. Fait que c'est correct de prendre ce temps-là, de creuser la question. C'est 5, 10, 15 minutes. Puis après ça, ça peut être de référer, ben, pas seulement à l'urgence, mais t'sais, au 811, option 2, info sociale. C'est un bon réflexe. À l'accueil psychosocial des CLSC aussi. Fait que dans chaque RLS, il y a un accueil psychosocial qui peut aider la personne à s'orienter vers les bons services. Puis souvent, ça va arriver au mécanisme d'accès santé mentale jeunesse après. Nous-mêmes, comme infirmières, dans des domaines plus de santé physique ou de santé scolaire, on peut communiquer avec le 811, option 2, puis avoir une discussion au téléphone en présence du jeune, puis d'être en mesure d'évaluer la dangerosité. Fait que je pense que ça, c'est comme la partie qui est attendue de nos collègues, que nous, on attend de nos collègues plus en santé physique. C'est de la même façon que quelqu'un se présenterait pour une raison de consultation en santé mentale, mais serait super dyspnéique. Ben, ça aurait comme pas de sens que je me dise, ben, mon rôle à moi, c'est d'évaluer sa santé mentale, puis je fais rien avec ça. T'sais, fait qu'il y a comme une partie, on s'attend pas que ce soit l'expertise de tout le monde, mais il faut qu'on soit capable de repérer des drapeaux rouges, là.
Des accomplissements extraordinaires par des gens dévoués. Voici le coup de cœur de la DSI.
En lien avec le sujet d'aujourd'hui, notre coup de cœur va à Dr. Mélissa Généreux, donc médecin spécialiste et professeure en santé publique. Selon elle, l'omniprésence des écrans, la pression de performance et toutes les crises de climat ou de logement, ce sont des facteurs de stress qui minent la santé mentale de nos jeunes. Et notre coup de cœur va justement à son livre qu'elle a publié en 2025, Renfort. Et là, je précise, renfort avec un S. Ce livre vient en quelque sorte à la rescousse des parents en proposant de multiples solutions non pharmacologiques pour renforcer la santé mentale de leurs jeunes, accroître leur niveau, leur pouvoir d'agir, cultiver le bien-être aussi. Elle souligne aussi la nécessité d'avoir une approche plus collective au sein de la société québécoise en incitant à intervenir davantage sur les racines de la détresse. Elle vient notamment mettre de l'avant que tout enjeu de santé mentale, ça ne nécessite pas nécessairement de la pharmacologie. Hein? L'importance, revenir à la base. Reconnaître d'abord la souffrance et surtout, quels sont les besoins qui n'ont pas été répondus en amont de cette souffrance-là. Puis elle présente aussi des outils d'auto-évaluation sur la santé mentale. Pas un outil qui permet de savoir si on a un trouble de santé mentale ou non, mais plutôt de réfléchir à sa qualité de vie, à son niveau de bien-être sur le plan émotionnel, social et psychologique.
Soins sécuritaires,
réontologie,
L3S,
actes réservés. Ai-je le droit?
Ai-je le droit, comme infirmier ou infirmière, de diagnostiquer des troubles mentaux à l'exception de la déficience intellectuelle? La réponse est oui, mais sous certaines conditions. En effet, diagnostiquer les troubles mentaux à l'exception de la déficience intellectuelle correspond à l'activité réservée numéro 16 du champ d'exercice des infirmiers et infirmières. Néanmoins, cette activité indique aussi que l'infirmier ou l'infirmière doit détenir une formation de niveau universitaire et une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques déterminée dans le cadre d'un règlement. Ce règlement précise que l'infirmière ou l'infirmier doit avoir suivi avec succès une formation universitaire de deuxième cycle en sciences infirmières dans le domaine de la santé mentale et des soins psychiatriques d'au moins 1035 heures réparties selon les critères définis à l'annexe 1 du règlement. Il ou elle doit aussi détenir une expérience clinique en soins infirmiers psychiatriques d'au moins 840 heures et doit fournir à l'OIEQ une attestation descriptive de la formation universitaire et l'expérience clinique. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de l'OIEQ. Donc, je tiens à remercier Joël Bernard-Hamel, notre IPS en pédopsychiatrie, qui a bien voulu se porter au jeu de l'entrevue avec moi pour vous parler de ce sujet-là d'aujourd'hui. Alors, pour le prochain épisode, si on parle d'intelligence artificielle en pratique de soins infirmiers, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, dans le prochain épisode, nous accueillerons deux passionnés pour en parler avec nous. Alors, restez à l'écoute. C'est ce qui termine ce premier épisode du balado Savoir et Cétoscope. Mon nom est Julie Blanchette. À la prochaine!
Le balado de la Direction des soins infirmiers du CIUS de l'Estrichu, Savoir et Stéthoscope, est produit et réalisé entièrement par l'équipe de la DSI. Ce balado a été enregistré et monté dans les studios de CEFAC 88.3 à l'Université de Sherbrooke. Merci à eux. À la prochaine pour plus de Savoir et Stéthoscope.